La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. À Turin, dans le quartier du Lingotto, la grande usine Fiat a commencé en 1922 à produire des automobiles. Depuis les prototypes jusqu'aux spécimens par millions. Et ce, pendant 60 ans. Symbole de l'industrie italienne comme des luttes ouvrières, cette usine a fermé ses portes en 1982 avant de les rouvrir, mais transformées en galerie marchande, centre de congrès avec hôtels et restaurants associés. Et au sommet, conçu par l'architecte Renzo Piano, la Pinacoteca Giovanni et Marella Agnelli, où les œuvres de la collection de l'ancien dirigeant de la firme italienne et de sa princesse femme sont exposées au public. La transformation de ce bâtiment pourrait à elle seule, nous disent Luc Boltanski et Arnaud Esquéré, symboliser cette grande mutation de nos sociétés capitalistes auxquelles il s'attelle dans un ouvrage majeur qui peut se lire à certains égards comme le prolongement du nouvel esprit du capitalisme. Ils sont aujourd'hui les invités de la suite dans les idées. Enrichissement, une critique de la marchandise, c'est le titre et le sous-titre de ce livre co-signé par Luc Boltanski et Arnaud Esquéré qui paraît chez Gallimard dans la collection Deriving des essais. Bonjour Luc Boltanski.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes directeur d'études à l'école d'études en sciences sociales et bonjour Arnaud Esquéré.
Bonjour.
Également sociologue chargé de recherche au CNRS. Vous aviez publié ensemble un bref livre de nature très politique. Cette fois, c'est tout autre type d'ouvrage, même si l'on trouve des préoccupations communes, une très grande enquête sur laquelle vous avez travaillé de longues années, un livre qui, dès sa parution, fait date et fera probablement, espérons-le, débat au sens scientifique du terme. Enrichissement est l'occasion pour vous de donner à voir et de réfléchir sur la manière dont le capitalisme s'est profondément transformé dans nos sociétés, avec l'exemple de la France plutôt placé au centre de votre démarche, mais on comprend bien qu'elle concerne, au-delà des frontières, beaucoup d'autres pays qui ressemblent aux nôtres. Donner à voir ce qui s'est passé dans les transformations du capitalisme, c'est d'autant plus un défi, un enjeu, que les outils dont nous disposons habituellement pour décrire ces transformations ne sont plus opérants. Ce que vous avez perçu, ce que intuitivement, beaucoup d'entre nous ont pu percevoir de manière fragmentaire. On se dit à la lecture, ah, mais ça, oui, bien sûr, ça résonne. On ne pouvait pas le voir de manière globale sans mettre au point une théorie et sans la confronter à des enquêtes. C'est ce que vous avez fait avec Enrichissement, Luc Boltanski.
Merci de cette présentation. Vous avez fait référence tout à l'heure au Nouvel Esprit du Capitalisme, qui est un livre qui a maintenant presque 20 ans, en tout cas qui a été entrepris il y a presque 20 ans, et qui portait sur les changements dans le cadre du travail et de l'organisation du travail, avec comme horizon ce qui était l'horizon de l'époque et ce qui est toujours d'ailleurs l'horizon, un horizon actuel qui était celui du chômage, de la croissance du chômage. Là, le projet est très différent. Il était de partir de l'autre face de la sociologie économique et de l'autre face du capitalisme, qui est la question du commerce et la question de la marchandise, qui est une question qui avait beaucoup occupé les sociologues des années 60-70, ou même les philosophes d'ailleurs, comme Baudrillard, Barthes ou Bourdieu, qui, de façon très différente les uns et les autres, avaient mis l'insistance sur la société de consommation et envisageaient les marchandises surtout comme étant des signes de distinction, des signes d'appartenance, etc. Et là, nous avons voulu reprendre cette question de la marchandise en, d'une part, la rapprochant des questionnements sur le développement du capitalisme en général depuis les 30 ou 40 dernières années, et puis en tirant parti de tout l'apport qui a été fait sur la question des choses à partir de Apadurai et de tout un ensemble de sociologues et d'anthropologues qui ont montré l'importance de la culture matérielle, des choses, des objets dans la vie sociale. Et donc, au fond, les choses sont au centre de ce livre, du même coup la question des richesses et la question de la façon dont différents types de formations sociales se définissent par différents types de façons de produire de la richesse, de faire de la richesse et du même coup de faire des hiérarchies sociales.
Je voulais revenir, Arnaud Esquiré, à l'exemple que je citais en introduction de cette émission et que vous prenez dans le premier chapitre du livre, la transformation de cette usine à Turin, usine de production d'automobiles, devenue lieu d'art contemporain, devenu lieu où la collection d'un industriel est donnée à voir au public. Et d'une certaine façon, ce résumé, en quelque sorte, permet de comprendre la direction générale du grand récit que vous faites et par lequel vous ouvrez cet ouvrage.
Oui, alors ce grand récit, il prend plusieurs formes parce que d'un côté, ce qui est en référence, c'est évidemment l'économie dite industrielle avec la désindustrialisation qui a eu lieu particulièrement en Europe de l'Ouest et donc avec des zones entières qui ont été désindustrialisées. À la faveur de délocalisation dans des pays où les salaires étaient plus bas et donc le coût de production était plus bas. Et en même temps, dans les zones dites rurales, où il y avait donc ce qui était annoncé, c'était la fin des paysans, c'est-à-dire la fin des petites exploitations agricoles, avec, si elles ne passaient pas à des grandes exploitations, la disparition de ces petites exploitations. En fait, ce qui se passe, si on regarde un certain nombre de régions, on voit que pour un certain nombre d'entre elles, comme l'exemple pris là à Turin, on pourrait penser par exemple d'ailleurs au Louvre-Lens, c'est-à-dire c'est que dans certaines de ces zones qui ont été désindustrialisées, on a essayé, ou évidemment une autre ville typique qui est Arles, qui est un très bon exemple, on voit sur le lieu en tant que tel la réexploitation en se tournant vers un autre type d'économie, un autre type d'activité qui sont la mise en valeur du patrimoine, autour de la mise en valeur du patrimoine et de l'art, etc.
Et de la photographie. Vous arrêtez un moment dans ce livre sur le cas de Arles.
Absolument. Et dans des zones rurales paysannes, on a pris le cas par exemple de l'Aubrac. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le contraire, la préservation en quelque sorte de ce type de région a été utilisée pour, en étant mise en valeur, en exploitant le passé pour, alors lié à l'artisanat, etc., au développement de maisons d'hôtes, etc., pour s'orienter vers un nouveau type d'économie. Donc, ça c'est le grand mouvement qui s'est fait dans des zones qu'on désigne comme étant, de la même manière qu'on parlait de bassins industriels, on parle de bassins d'enrichissement qui peuvent prendre des tailles variables.
Voilà, enrichissement, c'est le titre du livre, mais c'est cette économie de l'enrichissement, Luc Boltanski, que vous essayez de décrire. Comment la caractériser? En quoi se différencie-t-elle de l'économie classique et industrielle qui l'a précédée? Évidemment, il n'y a pas un changement du jour au lendemain, c'est un glissement progressif vers cet enrichissement. Pour comprendre vraiment ce dont il s'agit, il faut prendre en compte la manière dont le passé est utilisé pour produire de la valeur.
Nous avons utilisé le terme d'enrichissement en jouant sur son ambiguïté. Le premier sens pour nous, et qui au fond est le sens principal, est la façon dont une richesse est créée, non pas en fabriquant des choses nouvelles ou en produisant des choses nouvelles, comme dans la production en série, mais en se saisissant de choses qui sont déjà là et qui peuvent être des déchets, de façon à les enrichir, à en faire ressortir ce qui peut constituer une richesse. Et au départ, il y a eu une réflexion sur une façon de faire qui était celle des collectionneurs, qui vont prendre des boutons, ou vous savez, il y avait eu, il y a une trentaine d'années, une exposition aux Arts Déco, ils collectionnent, il y avait des collections de boutons, de fer à cheval, de n'importe quoi. Et évidemment, chacun de ces objets qui n'avait pas de valeur en lui-même trouvait une valeur du fait qu'il était associé à un ensemble systématique et pouvait également trouver une valeur individuelle quand on parvenait à lui associer une histoire. C'est le bouton du col que portait Proust lorsqu'il sortait dans les salons.
C'est le même type de principe qu'on voit à l'œuvre, d'une certaine façon, quand des déchets, au sens architectural du terme, des friches industrielles sont transformées en lieux de production de spectacle. Je pense à ce qui se passe autour du festival de la Ruhr Triennale, par exemple, où c'est pas du tout l'idée que des artistes investissent des espaces vides pour avoir tout simplement des mètres carrés pour travailler. C'est bien plus que ça. C'est l'idée de réanimer un patrimoine industriel devenu inutile d'un point de vue industriel pour s'en servir autrement et produire de la richesse.
Oui, sauf que c'est pas seulement le patrimoine en tant que tel, c'est-à-dire qu'il est lié à un ensemble d'activités. Et parmi ces activités, l'une d'entre elles qui est centrale, évidemment, c'est la question du commerce des choses. Et au fond, si vous voulez, une des grandes transformations, c'est que on pense l'économie des choses par rapport à la forme standard telle qu'elle a été analysée par Marx, avec cette idée qui était la critique de la société de consommation, qu'elles deviennent des déchets et qu'ensuite on va les jeter. Et la manière dont ensuite ça a été analysé, la plupart du temps, c'est qu'on était passé d'une économie matérielle à une économie immatérielle, en mettant l'accent sur Internet. Et nous, notre analyse, c'est qu'on est parti du fait qu'il n'y avait jamais eu autant de choses dans le monde d'aujourd'hui.
Peu importe qu'elles soient matérielles ou immatérielles.
De choses matérielles. Il n'y a jamais eu autant de fabrication et on n'a jamais été environné d'autant de choses matérielles et qu'il fallait bien analyser en fait ces choses. Simplement, on est parti d'un étonnement très simple, c'est que une même chose, par exemple un verre à eau, peut, quand il est neuf, voir son prix baisser quand il est d'occasion dans la forme qu'on appelle standard. Mais si le même verre est dit de collection, il peut voir son prix augmenter dans le temps, à condition bien sûr qu'il soit associé à un récit de notamment de la personne qui l'a possédé. On va dire effectivement, par exemple, c'est le verre dans lequel Proust trempait ses lèvres et donc il vaut plus cher. Et donc c'est ça le cœur en fait de notre réflexion par rapport aux transformations liées à l'économie de l'enrichissement.
Alors vous distinguez, Arnaud Esquéré et Luc Boltanski, quatre formes sur lesquelles vous revenez. Pour chacune d'elles, vous essayez de montrer les mécanismes d'enrichissement, la marchandisation, c'est la spécificité des marchandisations différentes, au fond, selon ces formes. Ces formes, la plus commune, la plus évidente, Arnaud Esquéré en a dit un mot, c'est la forme standard, c'est celle qui est liée à la production de masse, à cette économie industrielle. C'est par exemple les voitures qui sortaient de cette usine Fiat dont nous parlions au début. Mais à côté de cette forme standard, qui est importante parce qu'elle n'a pas disparu et que, au fond, elle reste un repère aussi pour beaucoup d'acteurs sociaux et économiques, vous distinguez trois autres formes, la forme collection, dont vous avez dit quelques mots, mais aussi la forme tendance et la forme actif. Est-ce que vous pourriez les présenter, Luc Boltanski?
Oui, une de nos préoccupations, c'était de comprendre comment chacun d'entre nous peut se débrouiller dans une société qui n'est plus seulement une société de consommation, mais qu'on pourrait appeler une société de commerce, une société où l'échange est devenu très important, où l'échange de choses, y compris de choses d'occasion, n'a fait que croître. Et nous nous sommes posé la question de sociologie cognitive assez classique, comment chacun d'entre nous, comment chaque acteur social peut-il se débrouiller dans ce monde de la marchandise? Nous appelons marchandise toute chose qui est associée à un prix quand elle change de main. Et imaginez par exemple que vous voulez un moyen de vous transporter assez vite en la ville à côté de votre maison de campagne pour aller faire vos courses. Vous allez chez le garagiste, Il vous dit, voilà, j'ai une... Vous dites, est-ce que vous avez une voiture ancienne? Ah ben oui, j'ai une Aron de 1948. Ah bon, elle roule toujours? Oui, elle roule. Ah bon, vous en voulez combien? Oh, 50 000 euros. Ah, vous dites, comment, mais je veux juste une voiture d'occasion. Ah, mais c'est pas une voiture d'occasion, monsieur, c'est une voiture de collection qui se vend à ce prix-là. Bon. Eh bien, là, vous avez fait preuve d'une faute de vos compétences en tant que membre d'une société de commerce qui doit savoir comment acheter et vendre. Ou imaginez que vous êtes dans un bazar, dans un pays exotique, vous ne savez plus associer les prix et les objets. Et donc cette question de l'association des prix et des objets est pour nous centrale. Et nous avons considéré qu'elle n'allait pas de soi et que, au fond, la relation entre la chose et le prix n'était pas du tout reçue passivement par tout un chacun, mais faisait l'objet d'une réflexivité, d'une réflexion, de critique et de justification. Et que donc, il fallait mettre les choses en valeur d'une certaine façon pour produire des arguments permettant de justifier le prix. Ce qui veut dire aussi que nous avons inversé la relation que l'on trouve chez les classiques entre le prix et la valeur, dans lequel ils considèrent que la valeur correspond à une propriété plus inhérente des choses que le prix qui est fluctuant, en considérant que ce qui était réel, c'était le prix, et que la référence à la valeur venait quand il s'agissait soit de justifier le prix, comme dans la publicité, soit au contraire de le critiquer, comme ce brave homme dont je parlais tout à l'heure, qui dit mais 50 000 euros pour une aronde, c'est vraiment trop cher. Mais que il fallait développer plusieurs formes de mise en valeur.
Alors ces formes, on va y revenir, mais ça permet aussi de prendre la mesure de l'écart qu'il peut y avoir, parfois gigantesque, entre ce qu'on appelle le coût de production d'une de ces choses et puis sa valeur sur le marché, c'est-à-dire la valeur pour laquelle cette chose est échangée entre deux acteurs économiques, Arnaud Escarré.
Pas tellement sa valeur, mais plutôt son prix, en fait. C'est parce qu'on conçoit la valeur comme la justification du prix. Et ça nous a conduit, si vous voulez, à poser différemment la question du rapport entre le capitalisme et la différence, qui est absolument centrale. Il faut avoir en tête que l'angle sous lequel c'est saisi en général, c'est l'idée que le capitalisme va uniformiser et donc effacer les différences. En fait, c'est lié à une sorte de focalisation sur le fait que les objets reproduits sont conformes avec le minimum de différences possibles au prototype. Mais d'une part, dans la forme standard, il faut bien en fait que le capitalisme exploite des différences pour trouver une plus-value entre les différents types de produits. Et d'autre part, si vous voulez, en fait, cette idée de la standardisation, elle a conduit à l'idée que le capitalisme s'étendant à la culture, notamment, ou à l'art, allait uniformiser l'art ou les objets culturels. En fait, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une économie propre, donc, ou en tout cas une forme de mise en valeur propre, qu'on appelle la forme de mise en valeur dite collection, qui, au contraire, pour le capitalisme, a besoin non seulement d'exploiter des différences, mais de créer des nouvelles différences. Et donc, là, contrairement à ce qui est en général communément pensé, en réalité, c'est le capitalisme qui pousse, en fait, à créer des différences dans le domaine culturel. Parce que s'il y avait une uniformisation, il ne pourrait plus en tirer parti.
Et si le capitalisme pousse à créer ces différences, Luc Boltanski, c'est parce que le capitalisme, en fait, apprend à se développer, au fond, aux marges, c'est-à-dire au plus près de ce qui est jusqu'alors tenu à l'écart de la marchandisation. C'est-à-dire qu'il y a une marche vers une marchandisation, alors évidemment de l'humain par exemple, mais aussi de choses qui étaient demeurées hors marchandisation jusque-là. Et c'est dans ces zones frontières entre le marchand et le non-marchand que l'on voit le capitalisme se développer le plus rapidement et de la manière la plus efficace pour s'enrichir.
Au cours des, disons, 40 dernières décennies, un avis souvent exprimé par des historiens de l'économie et du capitalisme est que ces déplacements sont liés aux variations des taux de profit, de retour sur investissement, qui sont liés eux-mêmes à tout un ensemble de phénomènes dans lesquels on ne va pas rentrer par manque de temps, notamment le fait que du coût du travail, bien sûr, et aussi le fait que les acheteurs ont déjà beaucoup de choses. C'est quelque chose qu'on oublie, c'est que nous ne sommes pas dans la situation qui a prévalu au début du développement de la forme standard.
Et ou de la reconstruction de la sortie de la guerre, par exemple.
Oui, ou par exemple dans les années 48-58 ou 48-60. Les problèmes commencent en fait vers le milieu des années 60. Et du même coup, le problème central, c'est d'offrir des choses différentes ou d'aller vers des marchandises qui n'ont pas encore été perçues comme telles et auxquelles on peut appliquer tout un travail de rationalisation et d'organisation des ventes. Il y a un économiste qui s'appelle Chamberlain, qui dans les années 30 avait développé une théorie de la concurrence monopolistique, qui est très intéressante parce qu'elle met l'accent justement sur la recherche de la différence par chaque offreur, de façon à se doter d'un monopole par rapport à des concurrents. Mais cette recherche prend des formes très différentes dans le cas de la forme standard, où ça va consister à présenter un objet qui est supposé accomplir une forme latente dans l'objet précédent, mais non réalisée, comme le smartphone le plus perfectionné, qui permet de faire des choses qui n'ont pas encore été faites avec les produits déjà en vente, ou cela va consister à développer d'autres formes de mise en valeur, comme on le voit dans le cas de la forme collection, ou dans le cas d'une autre forme que nous avons analysée, qu'on appelle la forme tendance, à produire une obsolescence extrêmement rapide en vendant des produits dont la durée... C'est la forme qui a le plus intéressé les sociologues, parce qu'effectivement, c'est la forme où les objets sont le plus proches de signes, où la durée de prix élevé des objets mis en vente est la plus courte. Et donc, dans chacune de ces formes, comme dans la dernière que nous avons analysée, qui est la forme actif, où les objets sont traités comme des actifs financiers, uniquement dans l'espoir d'être vendus avec profit, dans ces différentes formes, la question de la différence intervient de façon tout à fait centrale.
Je voudrais qu'on vienne maintenant à la manière dont on peut caractériser votre approche théorique. Je le disais précédemment et vous le soulignez à plusieurs reprises dans le livre. Au fond, ce que vous décrivez est passé en dessous des radars à plein d'égards parce qu'il n'est pas saisi par exemple, la comptabilité nationale ou les enquêtes statistiques classiques de l'INSEE, parce que cela correspond à des phénomènes qui traversent ces catégories, qui traversent ces professions, qui traversent ces secteurs économiques. Et donc, il fallait produire les outils descriptifs, en quelque sorte, de cette transformation. Et pour ça, vous avez adopté une double perspective, Arnaud Esquiré, que vous revendiquez comme telle, à la fois une vue d'ensemble et une démarche de type structuraliste, et puis une attention particulière à ce que font les acteurs dans une tradition pragmatiste. Et au fond, vous entendez montrer qu'il n'y a aucune espèce de contradiction dans le fait d'articuler ces deux, structuralisme, pragmatisme.
Oui, c'est-à-dire le livre a été, d'un point de vue méthodologique, complexe à écrire parce que il joue sur les différents niveaux, à la fois micro et macro, et il propose à la fois une histoire et en même temps une théorie structurale. Donc il a fallu articuler ensemble, ce qui était compliqué, histoire et structure, qui est un problème classique des sciences sociales, en tout cas au moins depuis le XXe siècle, depuis la deuxième partie du XXe siècle. Et donc la grande difficulté a été d'arriver à cette articulation et donc d'aboutir en fait à cette idée qu'on propose, qui est programmatique aussi, qui est celle d'un structuralisme pragmatique qui conjugue les deux, étant entendu que une structure ou un ensemble de structures peuvent, une fois qu'elles sont mises en place, en fait, être modifiées et se transformer à leur tour, elles-mêmes étant le résultat de structures antérieures.
On va bientôt arriver au terme de l'émission, Luc Boltanski. C'est trop peu, une demi-heure, pour rendre compte avec justice de la richesse de ce livre, enrichissement. Juste un mot sur la dimension critique de votre démarche. Vous insistez en particulier sur le fait qu'on a tendance peut-être à ne pas faire assez attention au rôle de l'État central dans ces mutations. Ces mutations ne sont pas seulement le fait des multinationales, des gens très riches, mais l'État joue un rôle important. Et autre chose qui est plutôt en prolongement du nouvel esprit du capitalisme, cela vous amène aussi à réfléchir à la question de l'exploitation, à la question du travail et de l'emploi. Comment ces choses ont été bousculées, profondément bousculées par la marchandisation.
Oui, l'angle critique du livre n'est pas du tout axé, ce qui est le plus souvent le cas quand on parle de la marchandise, sur une critique morale, du genre tout est marchandise, tout est réduit, le plus grand art est réduit à être une marchandise, etc. Cette critique morale, il faudrait un jour vraiment en faire l'histoire, elle remonte au moins à l'Antiquité tardive, comme dirait Peter Brown, mais ce n'est pas du tout notre optique. Nous pensons que la question principale du capitalisme, une question principale, est celle du profit. Comment est-ce que, qui est un mystère relatif en économie quand même, comment est-ce que la circulation des marchandises ne finit pas par distribuer la richesse de façon à peu près égale, mais s'accumule dans des centres de profit? Et nous avons essayé de traiter ce problème en distinguant parmi un grand nombre d'interprétations du profit, deux interprétations qui nous ont paru particulièrement intéressantes. L'interprétation marxiste qui met l'accent sur la plus-value travail, que nous avons peu utilisée, sauf si ce n'est qu'elle est largement responsable de la délocalisation. Et une autre interprétation qu'on a pris chez Braudel, qui est la question de la plus-value marchande liée au déplacement. Comment est-ce que le déplacement, qui peut être géographique ou qui peut être cognitif, en déplaçant les objets d'une forme à une autre, permet de produire une plus-value? Et évidemment, cette critique prend aussi un autre problème de face, qui est celui des nouvelles formes d'exploitation qui se développent dans une économie qui n'est pas uniquement une économie de production, et cette exploitation dont subissent ce que l'on appelle aujourd'hui, d'une façon que nous cherchons à analyser dans le livre très flou, les bobos, c'est-à-dire les travailleurs de la culture.
Merci beaucoup Luc Boltanski. Arnaud Esquiré, je rappelle le titre de votre livre « Enrichissement ». Une critique de la marchandise. On trouve les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture, page où vous pouvez réécouter l'émission, également vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la technique Éric Boisset. C'est la conversation scientifique d'Étienne Klein que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture dans quelques instants.